Passion Logement, une émission proposée par la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, avec son président Loïc Quentin sur Radio Immo.
Bonjour, vous êtes sur Radio Immo, on est très heureux de vous retrouver pour ce mois d'avril, un mois d'avril qui célèbre le développement du printemps, le printemps qui nous attend, enfin les beaux jours. On espère que les choses iront bien, iront mieux pour toutes et tous. Je suis ravi d'être avec vous pour cette tribune Passion Logement, le numéro d'avril, toujours en compagnie du président de la FNAIM qui est à mes côtés, c'est Loïc Quentin.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Loïc et merci d'être avec nous. Alors vous, le moins qu'on puisse dire, et je vous le dis d'ailleurs à chaque fois, puisqu'à chaque fois on en parle, vous avez un agenda pour le coup de ministre, puisque vous les rencontrez. Vous avez rencontré il y a quelques jours Guillaume Kasbarian. Je crois même que c'est la seconde fois que vous le rencontrez.
Troisième fois.
C'est la troisième fois que vous le rencontrez.
Deux rencontres physiques et une rencontre en visio.
Absolument, d'ailleurs tout à l'heure, nous allons parler d'un autre ministre qui est le ministre de l'économie, où là vous avez fait très fort, parce que vous rencontrez le ministre de l'économie Bruno Le Maire très bientôt. Première chose, avant de parler politique justement, et des orientations que vous avez prises assez fermes avec la Chambre, et vous avez raison, quand on voit le marché, c'est justement du marché dont j'aimerais qu'on parle à l'instant T. Nous sommes courant avril, Loïc Quentin, est-ce que le marché se porte mieux ?
Une embellie, oui, en février-mars, qui est principalement due, je dirais, à un desserrement des conditions et de la production de crédit dans lesquelles étaient enfermés les établissements bancaires, étaient à la fois enfermés par le taux d'usure, notamment, qui était insuffisamment élevé. Deuxièmement, les banques ont profité aussi d'un peu plus d'oxygène avec un refinancement sur le marché monétaire, avec des OAT qui sont à la baisse, donc reconstitution de leur marche, et plus de souplesse pour pouvoir enclencher une baisse des taux. Alors ça a permis à nombreux ménages qui avaient délaissé un peu ce secteur de reprendre le chemin, je dirais, de la croisade de l'accession à la propriété, de l'acquisition, et se positionner en tant qu'acquéreur pour avoir finalement le pouvoir de négociation est aujourd'hui revenu entre les mains des acquéreurs. Et le vendeur sait très bien qu'il doit concilier et doit conjuguer aujourd'hui avec une baisse des prix. La baisse des prix, elle est enclenchée. On a plus de volume. Nos adhérents ont fait des meilleurs chiffres d'affaires en février et mars, mais j'ai simplement, on est en train de rattraper quelque chose qui avait été érodé pendant un certain temps, mais qui ne veut pas dire qu'il s'inscrive dans la continuité et la durée.
Alors, les prix, vous dites effectivement qu'ils baissent, effectivement on observe un peu partout.
Oui.
Des baisses de prix, sauf sur les accès littoraux, à croire que les Français adorent la mer et que là pour le coup ça baisse pas, hein. ça augmenterait plutôt. Mais sur les grandes métropoles, vous avez raison, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des chiffres. Est-ce qu'on parle aujourd'hui des baisses qui sont sensibles, mais pas non plus significatives, de l'ordre de 5 à 10% pour les plus hautes ?
Si on prend par exemple là où les villes ont connu les plus fortes hausses et connaissent aujourd'hui les plus fortes baisses. Paris a les 10 premières grandes agglomérations.
Absolument. Lyon,
et
Nantes,
Paris
Bordeaux.
A eu 11% de baisse, notamment sur 2 ans et demi, avec 14 points d'inflation. C'est 25 points de baisse, réalité, si on raisonne en euros constants.
Vous avez raison.
Et donc là, il faut l'intégrer comme ça. L'inflation, je dirais, en 3 ans, elle a largement érodé.
Est-ce que Paris redevient attractif, Loïc Quentin ?
Pardon ?
Est-ce que ça veut dire que, du coup, Paris redevient attractif ? Ça relance un peu le marché parisien ?
Ça l'a relancé, oui. C'était lui qui était, je dirais, le plus en difficulté ces derniers mois, ces 2 dernières années. Il reprend un peu des couleurs, mais il retrouve une normalité. Mais attention, on n'est pas revenu sur, je dirais, un marché régulier avec un rythme de croisière. Il faut faire très attention à cela. On a toujours dit qu'en 2023, c'était l'année de la baisse des volumes, et 2024 était l'année de la baisse des prix. On a encore un peu de baisse des volumes à attendre en 2024. D'ailleurs, je note que la BPCF a exactement la même analyse que la FNIM. Eux, ils statuent en dessous de 800 000 transactions. Nous, on stabilise sur 800 000 transactions en fin d'année, mais avec une baisse des prix qui est enclenchée. Et cette année sera la vérité des prix, parce que la baisse des volumes, on l'a toujours dit, précède toujours cette baisse des prix. Quand les vendeurs, effectivement, ne sont plus au rendez-vous de transactions, eh bien, le prix opère en faveur de l'acquéreur.
Est-ce qu'on va reconnaître, Loïc Quentin, une période dans laquelle on va se dire que le marché est revenu sur des couleurs à peu près normales, ou est-ce que vous vous dites, même quand ça repartira, ça ne ressemblera plus à ce que nous avons connu ?
Ça ne peut plus ressembler à ce que nous avons connu.
Ah oui, clairement.
Avec les taux d'intérêt que nous avons connus jusqu'en dessous de 1%, ce n'est plus possible. On vivra d'ailleurs jamais ce genre de période. D'ailleurs, il serait souhaitable que même le législateur s'intéresse à comment stabiliser les taux et éviter que le marché soit, je dirais, dépourvu d'armes et dépourvu de ressorts pour mieux s'orienter aujourd'hui là où il est le plus à la peine. Parce que c'est bien les taux d'intérêt qui ont largement impacté le pouvoir d'achat de nos ménages et donc
les volumes. Mais finalement, en ayant accès plus facilement à l'argent, auprès de l'argent, ça a contribué à créer de l'inflation sur les prix.
Bien évidemment, puisque quand un ménage raisonne en termes de pouvoir d'achat le tiers de son revenu en capacité de remboursement, et qu'avec le même remboursement on peut avoir plus de prêts, eh bien automatiquement on est tenté de répondre à un souhait du vendeur de positionner son prix plus haut, et il y a une spirale bien évidemment haussière du prix qui se forme sur l'immobilier. Et là aujourd'hui on a la même chose mais à l'envers.
C'est plutôt positif ce que vous dites finalement.
Comment ?
Ce que vous dites est très positif, parce que finalement ça revient à une forme d'équilibre.
Oui, mais c'est la régulation des prix en économie. Pour ça, il faut toujours être optimiste sur les marchés de l'immobilier. Il faut attendre, mais simplement, le prix ne se baisse pas tout de suite. Il faut attendre, il y a le temps de la décrue, c'est un temps long et un temps de compréhension entre un vendeur et un acheteur qui forme un prix sur le marché et aussi avec la disposition.
Pas évident pour ceux qui l'ont acheté au plus haut.
Ah, c'est pas facile, mais c'est, je dirais que...
Quand vous avez acheté 12 000 euros du mètre carré à Paris et que vous vous retrouvez avec une baisse de 10%,
oui, mais on a connu ça en 1990, les prix à Paris étaient au plus haut. Il a fallu attendre 2002 pour retrouver le même cours avec une décrue jusqu'en 1996, rappelons-nous.
Oui,
il y a eu 6 ans de baisse des prix à Paris.
Tout à fait.
On a oublié ça.
Oui.
Donc là, on n'est pas...
Oui, c'est vrai ce que vous dites, parce qu'effectivement, on l'a déjà connu. En fait.
On l'a déjà connu. Oui, oui. Le marché a redémarré après une crise de 90, a redémarré en 96 et n'a pas arrêté, je dirais, jusqu'à 2022. Donc c'est-à-dire, c'est quasiment 25 ans de hausse ininterrompue, à part la crise des subprimes de 2009. Donc on a eu, une période extrêmement favorable.
Mais si on devait envoyer un signal à toutes celles et ceux qui nous écoutent, les professionnels notamment des agences immobilières, dont beaucoup ont quand même mis la clé sous la porte pour certains, est-ce que ça veut dire que le marché de la transaction naturelle, primo-accédant, la primo-accession qui a été le plus impactée, hein, ainsi que les investisseurs, est-ce que finalement tous ces indicateurs, les vannes du crédit qui se réouvrent, une plus grande flexibilité, apparemment un législateur ou un gouvernement qui semble un peu plus à l'écoute, est-ce que tout ça est de nature finalement à restaurer une confiance auprès des professionnels?
Elle est absolument indispensable, parce que de toute façon on ne peut pas continuer comme ça. La seule crainte vient bien évidemment de l'incapacité où le neuf ne va pas être au rendez-vous d'une production de logement et qui va tendre avec un stock qui est insuffisant et qui sera de nature à renchérir les prix. Ça c'est plus inquiétant qu'autre chose. Sur le marché de l'existant, il n'y a pas d'inquiétude quand on est vendeur. La grosse inquiétude c'est pour les primo-accédants. Il faut bien évidemment permettre aux primo-accédants de pouvoir accéder à la propriété. Ils en sont largement écartés depuis de nombreuses années. Donc il faut restaurer cette faculté d'accession. Pour un vendeur, hier, aujourd'hui, je l'ai souvent dit, il vendait plus cher, mais il achetait plus cher. Et aujourd'hui, il vend moins cher, mais il achète moins cher. Donc, je dirais, son delta, il est toujours à refinancer, à un taux d'intérêt qui reste quand même relativement accessible. Mais il ne faut pas se focaliser sur la réalisation d'une plus-value. Quand, je dirais, le marché de l'immobilier a répondu à toutes ses promesses et à tous ses objectifs pendant plus de 20 ans, à permettre à beaucoup de Français de réaliser des plus-values qui étaient parfois même insolente. Voilà. Insolente vis-à-vis de la croissance de notre pays. Donc, et voire même indécente vis-à-vis du pouvoir d'achat de certains ménages. Donc voilà, il faut relativiser.
J'aime beaucoup votre terminologie quand vous dites indécence, insolence. Parfois, c'était quasi carrément spéculatif. On peut le dire, ça.
Mais bien évidemment.
On peut le dire, d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez souvent fustigé certains types de comportements qui étaient liés à la hausse. Mais vous avez l'expérience.
Oui. L'immobilier doit rimer avec utilité. On achète de l'immobilier d'abord pour se loger. Et il doit être à disposition pour loger tous les Français.
Mais absolument, c'est hyper important ce que vous dites en termes de charge mentale et sur le message. Vous avez une vision maslonienne du logement. On se loge pour se nourrir, pour s'abriter.
C'est fondamental.
Pour créer un climat de famille.
Vous avez derrière le cube jaune, sous le cube jaune, c'est marqué « Agir pour le logement ».
Oui, tout à fait.
Voilà. Et ça, c'est toutes nos forces. On a un syndicat qui est là pour agir pour le logement.
Alors justement, pour le coup, vous agissez pour le logement, il n'y a pas de doute là-dessus, puisque vous, politiquement, vous avez fait je crois que vous êtes certainement l'un des présidents fédéraux qui a eu le plus de rendez-vous avec des législateurs, des sénateurs, des députés, des ministres. Vous avez vu la troisième fois, Guillaume Kasbarian, tout nouveau ministre. Alors, je ne peux pas résister, vous en pensez quoi? Comment vous accueillez la politique de ce ministre qui a l'air de se bouger il se fait un petit titiller l'oreille pour passer dans la presse. Nous, on désespère pas de l'avoir, mais on finira peut-être par l'avoir. En tout cas, ça a l'air de bouger. C'est la troisième fois que vous le rencontrez, et en plus, vous avez le mois prochain, vous rencontrez le ministre de l'Économie et des Finances. Déjà, premier point, avec Guillaume Kasbarian, politique du logement, est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont être mises en œuvre que vous avez proposées, hein. Vous me corrigez si je me trompe, vous avez proposé la portabilité, moi je trouve que l'idée est géniale. Elle est géniale. Est-ce que les banques vous suivront? Est-ce que tout ça pourra se faire? Vous êtes revenu aussi sur le statut fiscal, ça c'est aussi très, très important. Bref, vous êtes revenu sur des mesures qui ne coûtent pas si cher que ça à l'État. Vous les avez même chiffrées, et vous avez pointé l'intérêt qu'aurait l'exécutif à le faire, parce qu'on vous a quand même bien fait comprendre, me semble-t-il, que malgré les volontés du gouvernement à appliquer une vraie politique du logement, il y a quand même un problème de budget sur le logement.
Évident. Alors, Guillaume Kasbarian, comment le définir? C'est quelqu'un de très accessible, d'ailleurs, on pourrait l'inviter ici, on pourrait faire un débat tous les deux, je pense qu'il ne serait pas du tout opposé.
Mais écoutez, si nous répondait, ça serait génial, donc si vous pouvez le faire pour nous, on serait ravis, Loïc Quentin,
je vais envoyer un petit texto.
Voilà, un SMS avec grand, grand plaisir. Voilà.
Alors, Guillaume Kasbarian.
Et on ne piégera pas.
Non. Guillaume Kasbarian, troisième fois, on s'est vu la semaine dernière, donc lundi, pendant une heure, un entretien extrêmement constructif sur tous les sujets que j'avais abordés. Je ne vais pas tous les lister, puisqu'il y en a nombreux. On va parler de sujets économiques. La portabilité, la transférabilité, que je n'ai pas réussi ni faire adopter par Olivier Klein, ni Patrice Vergriet, bien qu'il trouvait l'idée géniale, mais il n'a pas eu le courage politique d'aller jusqu'au bout. Je pense qu'avec Guillaume Kasbarian, il a envie d'aller plus loin, et il m'a confirmé que soit cela pourrait prendre l'idée d'une législation pour le futur, ou à effet rétroactif, ou m'accompagner face aux banques pour vendre le dossier. Alors d'abord, Guillaume Kasbarian, c'est un homme, je dirais, pragmatique, volontaire, déterminé, et prêt à agir. Il a cette volonté. Maintenant, tout va dépendre de la feuille de route qu'il va recevoir et qui lui sera permise par le président de la République, Bercy.
Et vous pensez que ces arbitrages-là, il va les gagner ?
Bien, je pense que c'est un homme de conviction, un homme de débat. D'abord, après, il a des valeurs fermes. Par exemple, ce n'est pas un pro de l'encadrement des loyers. C'est quelqu'un qui est là pour donner confiance aux bailleurs, redonner confiance, envoyer des signaux. On a échangé sur beaucoup de solutions. Je ne peux pas toutes les révéler encore, mais on a eu beaucoup d'échanges sur ce point. Il veut véritablement enclencher un mouvement de confiance au niveau de l'investissement locatif. C'est une très bonne chose. Je lui ai fait part de propositions, notamment fiscales. Il n'a pas écarté le fait soit de proposer dans une loi de finances rectificative ou loi de finances 2025. Alors, la portabilité, transférabilité, oui, on va y aller ensemble. Je pense qu'on va faire avancer le dossier. De toute façon, moi, je ne lâcherai jamais tant que je ne peux pas. Et je demande justement, ce que je l'ai maintes fois exprimé, c'est aux banques, pour une fois au moins, de passer une convention, ne serait-ce que pour une année, d'être aussi républicaine que l'État l'a été à leur égard au moment de la crise des subprimes, en 2009, lorsque l'État français leur avait prêté 20 milliards d'euros à 0% et avait finalement agi sur le Ribor pour leur permettre de financer 500 milliards de prêts, et la France était portée caution vis-à-vis de l'Europe. Donc à un moment, on a un geste de retour. Mais même un an, même deux ans, ce n'est pas ça qui va coûter. Je mets justement en contre-pied les 500
milliards. Mais la banque qui vous dit ça, c'est pas faisable techniquement, ça demande...
Il n'y a aucun argument
comme quoi. Ça demande une modification contractuelle de nos contrats.
Non.
Carrément, comme on l'a entendu dans certaines banques, nos volumes sont trop importants, c'est pas réaliste.
Oui, mais les volumes sont tellement importants qu'on va avoir 200 milliards de travaux de rénovation énergétique à financer, et là je pense que les banques seront ravies, surtout que la FNIM a été porteur et fait modifier le taux d'usure en référence, qui n'est plus le taux d'usure lié au prêt immobilier, mais les taux d'usure liés au prêt à la consommation, qui leur permet de gagner beaucoup plus
que précédemment. Est-ce que le taux d'usure est en question justement là-dessus?
Non, il n'est plus en question, parce que maintenant ils peuvent prêter aux copropriétés avec un taux d'usure qui est le taux d'usure des prêts liés à la consommation. Donc
20%.
Ce n'est plus une question...
Mais c'est 20%.
Non, on est à 8-9%.
Je parlais d'une époque où le taux était à 21%. Donc 8-9%, c'est énorme.
Bien sûr.
Mais pourquoi on n'irait pas à le faire pour les crédits immobiliers, pour les primo-accédants aussi? Pourquoi on ne relâcherait pas le taux d'usure?
Non, parce qu'il faut l'encadrer, parce que l'emprunt immobilier est un taux long et des taux d'intérêt à ce niveau-là, c'est une charge de crédit trop forte. Et donc, pour revenir sur l'autre proposition économique que j'ai fait à Guillaume Kasbarian, et je l'évoquerai devant Bruno Le Maire le mois prochain, c'est une solution simple. Vous l'avez dit, les recettes de l'État sont exemptes. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, on le sait tous. Moi, je dis souvent, tous les deux jours, on emprunte, on a un déficit d'un milliard. Hein, le déficit de la France budgétaire, c'est 170 milliards. En bout de 10 jours, c'est, au bout de 20 jours, c'est 10 milliards. Hein, 1 milliard tous les deux jours, au bout de 20 jours, c'est 10 milliards. C'est l'équivalent d'un porte-avions. Le coût du porte-avions qu'on construit. Et chaque année, on a en déficit budgétaire l'équivalent de 17 porte-avions. Moi, je compte en porte-avions maintenant. Avant, on comptait en autre chose, mais, ou en hélicoptère, mais c'est un, je dirais que c'est un bon parallèle. Alors, quand on n'a pas d'argent...
Dit comme ça, ça fait flipper.
Ça fait peur, oui. Ouais. Quand on n'a plus d'argent, donc il faut savoir anticiper, prévoir une croissance sans mobiliser les ressources de l'État. Il y a les dépenses de l'État qu'il faut revoir, mais il y a aussi les recettes. Comment on peut avoir des recettes? Il faut soutenir à la fois le neuf, la rénovation énergétique, l'investissement, etc. Et la proposition de la FNIM, qui est de dire investissez aujourd'hui, défiscalisez demain. Elle est très simple. On permet à un Français qui achète, on a une crise dans le locatif, qui achète un appartement pour le louer. Il le garde pendant 10 ans, et les 10 années d'après, il est exonéré d'impôts sur ses revenus locatifs totalement. On porte l'exonération à 15 ans, s'il achète dans le neuf, ou s'il fait des travaux de rénovation énergétique. On a plusieurs fléchages dans ce cas-là.
Exonération
d'impôts sur les revenus locatifs. Plusieurs fléchages dans ce cas-là. Premièrement, en différant la prise en charge de l'exonération d'impôts sur les revenus, l'État peut encaisser des recettes de TVA sur le neuf, des droits de mutation, et ne compromet pas la dynamique du marché.
Très juste. Très juste.
Premièrement, on flèche une stabilité du marché locatif à 20 ans, 10 ans, plus 10, voire 25 ans, si c'est dans le neuf ou avec des travaux de rénovation. On donne l'espoir à un propriétaire qui arrive au moment de sa retraite, j'ai 55 ans, je dis je vais acheter un petit appartement, je vais faire l'effort d'épargne quand je suis mes dernières années d'activité, et quand je vais arriver à 65 ans, je serai au bout de mes 10 ans de portage, je vais être exonéré d'impôts sur mes revenus locatifs, je vais toucher 600 euros de plus par mois sans impôts sur mes revenus. Et cette solution, elle permet effectivement, et là au meilleur moment, aux premières années meilleures de la retraite, on permet à un Français d'avoir un pouvoir d'achat et un complément de retraite. La solution, elle est simple, elle coûte moins cher que d'autres solutions fiscales, elle permet de différer la prise en charge par l'État, elle permet de dynamiser le neuf, dynamiser l'investissement locatif et favoriser aussi les travaux de rénovation énergétique. Quand on vend un appartement, une passoire énergétique, eh bien, un propriétaire, 14% d'entre eux, au plus de 80 ans, ne feront pas les travaux, ils sont amenés à revendre, et là, on peut amener des gens qui sont prêts à investir dans un appartement pour faire des travaux de rénovation énergétique. La solution, elle est simple, elle permet de différer notamment la prise en charge pour l'État au moment même où les recettes de l'État sont exemptées.
Ça coûte pas cher à l'État, quasiment, ça coûte rien, finalement. Il y a un différé fiscal, certes, mais qui est largement compensé par la dynamique du marché, vous l'avez rappelé, hein, TVA, construction.
Moi, j'y crois.
Alors, pourquoi ça marche pas? Pourquoi vous avez... Alors, en même temps, voilà, mon rôle, c'est d'être journaliste, c'est pas d'être politique. Mais quand je vous écoute, j'entends la voix du bon sens.
Oui, mais Sylvain, vous savez, le marché, le raisonnement politique n'est pas le nôtre. Oui, la voix du bon sens, on est pragmatique, mais la réaction politique est
un temps long. Si vous mettez en place, je reprends votre collègue Pascal Boulanger. Il faut agir, et vite. Il a fait un poste... Il faut agir maintenant. Parce qu'il y a une urgence. Oui. Mettre en place ce que vous dites ne me semble pas être non seulement compliqué, en tout cas, il n'y aurait juste qu'une décision politique de l'exécutif, du Premier ministre.
J'y crois.
Pour mettre en place.
Mais j'y crois parce qu'à un moment ou un autre, il faudra des solutions qui ne coûtent rien. Oui, il y croit.
Est-ce que
Et d'autres députés, est-ce que le ministre du logement s'est
prononcé pour être porteur de cette idée qui, à mon avis, est extrêmement...
La proposition, il faut la travailler, alors avec Bercy, bien évidemment, il faut la travailler avec beaucoup d'autres. J'en ai parlé avec Annick Lemeur, qui trouve l'idée intéressante, beaucoup d'autres députés. Donc, c'est le temps du parcours, de la compréhension politique et de l'accompagnement politique qui est long pour un syndicaliste que je suis, et surtout aussi, et Sylvain, je dirais même que les propositions que la FNIM porte, regardez, notre environnement syndical n'est pas plus en soutien que ne l'est le monde politique. Moi, je fais aussi un appel aux autres syndicats de ma famille professionnelle de venir à notre secours et de nous aider dans les propositions que l'on fait.
Est-ce que c'est le cas?
Regardez.
Alors, il nous reste 2 minutes. Vous allez certainement, bien sûr, proposer toutes ces solutions à Bruno Le Maire. En tout cas, on va être très, très attentif
au retour. J'espère que le rendez-vous ne sera pas annulé.
Voilà, au retour de ce rendez-vous. Au niveau des actualités, comme c'est l'usage, pour chaque tribune, chaque mois, on a les actualités de la Chambre. Et là, on a un événement extrêmement intéressant qui va se dérouler à Lyon le 31 mai 2024. Et bien sûr, le 31 mai, vous allez faire votre Assemblée Générale au niveau national, avec également l'Assemblée Générale de Galion, qui, je le rappelle aujourd'hui, est l'un des assureurs numéro 1 en garantie de loyers impayés, mais aussi en couverture des risques pour les agents immobiliers, syndics de copropriété, administrateurs de biens.
Oui, Galion est notre garant historique, hein, c'est l'ancienne caisse de garantie
voilà,
de la FNIM.
Ancienne CGAIM.
Qu'on avait créée, et avec Galion et avec Gérard Coll, son président, on a décidé, puisque nos délégués aiment venir aussi à l'Assemblée Générale de Galion, on fait un événement mixte pendant 2 jours, et ce qui va nous permettre, on espère que ce soit une très belle Assemblée Générale, une très belle mobilisation, un moment, je dirais, de réunion, de rassemblement de nos 650 délégués qui seront présents, qui seront convoqués à cet effet, et avec une ambition de définir ce quoi on travaille aujourd'hui, la nouvelle ligne stratégique, la nouvelle vision stratégique de la Fédération pour les 20 prochaines années. Quelle ambition politique, quelle place syndicale, quel rôle la défense, pour quelle profession et quel professionnel.
Vous restez toujours aussi confiant, Loïc Quentin ?
Moi, je vis tout le temps avec l'espoir, j'ai toujours le sourire. Moi, de toute façon, je ne m'avoue jamais vaincu, et je ne l'ai jamais. Mais je ne demande qu'on me démontre que mes idées sont erronées. Pour l'instant, on ne me contre pas, on ne me dit pas non, ce n'est pas possible, on ne me répond pas, tout simplement.
Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes plébiscité par la presse et notamment par le grand public. Donc, ce qui prouve finalement que vos idées passent. Il faut juste espérer que l'exécutif suivra vos recommandations avec beaucoup, beaucoup d'attention. Je pense que c'est aussi une demande très forte de vos adhérents pour relancer un marché qui a été quand même assez chahuté depuis les 18 derniers mois, voire les 2 dernières années.
Il faut être patient et avoir confiance en notre avenir.
Merci Loïc Quentin.
Merci Sylvain.
Voilà, pour la tribune Passion Logement, numéro d'avril, à réécouter en podcast, comme d'habitude, sur les supports d'écoute. Vous pouvez liker, commenter, toujours avec beaucoup de bienveillance. D'ici là, prenez soin de vous et on va se retrouver pour un nouveau numéro avec Loïc Quentin de Passion Logement pour le mois de mai, avec le temps qui va devenir clément. On vous souhaite que des belles choses. Encore une fois, d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain.
Passion Logement, une émission proposée par la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Loïc Quentin sur Radio Immo.